Je vous salue tout de même, Alain Baraton.
Bonjour.
Bonjour,
bonjour
Patricia. Bonjour.
Moi, je
à tous.
Pas bonjour,
ah, bon, tiens donc.
Non, j'ai fait
c'est
la gueule.
Comme ça. Bon. À propos des villes, les villages fleuris ce matin, 4885 communes possèdent ce label.
Et le succès de ce label ne se dément pas puisque 169 communes supplémentaires ont été couronnées cette année. Alors, on s'est tous posé la question sur ces panneaux à l'entrée des villes et villages. J'avais donc envie ce matin d'expliquer le pourquoi. C'est en 1959, voyez-vous, qu'est créé ce concours qui a pour objectif d'humaniser nos cités en promouvant les jardins et tout ce qui se nomme, le terme n'est pas très joli, les espaces verts. Pour postuler en 1959, pardonnez-moi, les villes et villages devaient alors compter entre 1000 et 20 000 habitants et s'inscrire auprès de leur préfecture, une première sélection étant alors faite par les préfets en personne. Cette idée de promouvoir les communes méritantes pour leurs aménagements paysagers est née l'année précédente dans l'esprit de Robert Buron quand il est nommé ministre des Travaux publics, du transport et du tourisme.
Ouais, cette idée n'est donc pas nouvelle, hein.
Elle est née quelques années plus tôt quand un homme d'église, l'abbé Wendling, participe à la fin de la guerre aux travaux de déminage de Diebolsheim, j'espère avoir bien prononcé le mot, un bien modeste village du Bas-Rhin en Alsace. Non content de risquer sa vie, il propose, et son idée est merveilleuse, de planter une fleur là où il est trouvé une mine. Grâce à cet homme, un village dévasté va devenir accueillant et où il fait bon vivre. Forcément, les communes alentours en font de même et de passage dans la région, Robert Buron, le ministre dont je vous parlais il y a un instant, s'en inspire pour créer le fameux concours qui deviendra officiellement en 1972 le Comité national pour le fleurissement de la France et en 2001 le Conseil national des villes et villages fleuris.
Et c'est donc ce conseil qui désormais attribue chaque année les précieuses fleurs un peu comme des bons points.
Affirmatif, en fonction de critères écrits et incontournables, comme les moyens mis en œuvre pour le développement durable et le cadre de vie, ou l'harmonie des aménagements paysagers. D'autres critères sont apparus au fil du temps, comme les économies en eau et le respect de l'environnement. Alors il est possible d'obtenir jusqu'à 4 fleurs, c'est le Graal, et 265 villes et villages cette année ont ainsi été labellisés. Pour arriver à ce résultat, ce n'est pas simple. Il leur a d'abord fallu être sélectionnés par un jury départemental, puis séduire un jury régional, et enfin le jury national, le seul qui attribue dans la distinction 4 fleurs.
Le prix national qui fête cette année, c'est 60 ans.
Et oui, et ce prix national récompense Saint-Josse-sur-Mer, un village du Pas-de-Calais, et les 1150 habitants peuvent être fiers des efforts en matière de fleurissement. Ceux du petit village de Diebolsheim, j'avais prononcé beaucoup
dans le
mieux.
Bas-Rhin.
Merci, peuvent aussi se réjouir.
Ça peut pas être bon tout le temps.
Hein. Et oui, c'est sûr, je vous remercie. 30 ans après le décès de l'abbé Wendling, la commune continue ses efforts et est encore et toujours 4 fleurs.
Mais Alain Baraton,
j'en profite pour saluer tous les jardiniers de France qui contribuent au fleurissement des villes.
Oui,
on n'y pense jamais, mais quand vous découvrez certains villages, certaines villes, eh bien, il y a des espaces verts, il y a des arbres, il y a des massifs. C'est pas grand-chose et finalement, c'est énorme. Donc, un petit coup de chapeau bien amical ce matin à tous mes confrères, qu'ils soient hommes ou femmes, bien entendu. Jardinier, j'aime pas le terme de jardinière, ça fait un peu plat de légumes ou potiche, pourquoi pas jardiniste. Donc à tous les jardiniers de France,
eh bien c'est fait.
Nous les embrassons.
Alain Baraton, à présent vos conseils aux auditrices et auditeurs de France Inter avec Marc qui vous demande « Comment puis-je protéger les fleurs de mes 2 abricotiers en fin d'hiver ? Un voile d'hivernage ferait-il l'affaire ?»
Vous avez remarqué encore et toujours ce temps incroyablement doux, cet hiver qui n'en est pas. Et les arbres sont complètement déboussolés. Alors les abricotiers ont toujours eu l'habitude de fleurir prématurément. Mais le problème, c'est que si l'abricotier résiste au froid, la fleur est beaucoup plus fragile. Peut-on véritablement protéger une fleur du gel ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que ce voile d'hivernage risque de nuire à la qualité de la fleur.
C'est pas assez froid, en fait.
Et oui, et je ne suis pas sûr. Donc mettez pourquoi pas, mais si l'abricotier en question est au nord de la Loire, je ne suis vraiment perplexe. Cet hiver n'a pas fini de rendre, j'allais dire, les jardiniers sans voix.
Sylvie, qui hésite à tailler ses rosiers, car ils sont déjà, on y revient, déjà en train de repousser. Que dois-je faire, vous demande Sylvie.
Le Baraton hésite à tailler les siens. Alors je vous explique.
J'adore quand il parle de lui à la troisième personne.
Oui, vous allez comprendre. Nous avons un massif de rosiers magnifique près du Petit Trianon à Versailles. Et le jeune jardinier en charge de ce site m'a appelé.
C'est pas vous le jeune jardinier.
Non, bien sûr. Mais je l'ai été. J'ai même été magnifique. Enfin, c'est une autre histoire. Donc ce massif de rosiers, eh bien, a commencé à se redévelopper. Faut-il le tailler ou non? Alors, dans tous les livres d'horticulture, il est dit qu'il faut tailler le rosier lorsque les grosses gelées ne sont plus à craindre. Si nous taillons maintenant le rosier et qu'il fait froid demain, les nouvelles pousses risquent de pâtir du gel. Si on ne taille pas le rosier, il risque malheureusement de prendre trop d'avance. Et s'il y avait encore là des gelées tardives, ce n'est pas quelques petites feuilles qui seraient dégradées, mais l'ensemble de la ramure. Alors que faire? Eh bien, oui, je taillerai maintenant, mais à peine, en espérant que le froid va, une bonne fois pour toutes, arriver, car ces hivers perturbants pour les plantes le sont aussi pour les jardiniers.
Question de Ben en Tunisie, car on nous écoute en Tunisie aussi. Benoît vous demande, est-il possible donc de plaquer du gazon sur un balcon?
Alors oui, pourquoi pas, mais déjà pas maintenant. Ensuite, tout dépend du poids du gazon, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'un balcon obéit peut-être à des règles d'architecture. Donc c'est possible, un, si l'architecte est d'accord. Possible, deux, si on peut rajouter de la terre sous le plaquage, parce que mettre un rouleau de plaquage ne suffira pas. Trois, qu'on pourrait également l'arroser sans nuire aux voisins du dessous qui risquent de se prendre toute l'eau en permanence. Donc, renseignez-vous auprès de la copropriété avant de faire une bêtise.
Marie aimerait savoir comment faire refleurir son amaryllis d'une année à l'autre. Pourquoi pas pour les fêtes de Noël?
Je fais une réponse courte ou...
Courte.
Courte. Ne cherchez pas. Les amaryllis qui fleurissent à Noël ont été forcés par des professionnels. La floraison normale de l'amaryllis, c'est au printemps. Comment faire refleurir? Laissez le bulbe se reconstituer. Ne coupez pas les feuilles tant qu'elles sont encore vertes. Attendez qu'elles soient sèches. Mais elle fleurira, votre plante, que vous le vouliez ou non, au mois de printemps. L'horticulture est un métier et pour forcer une plante, il faut avoir quelques notions.
Ouais, très bien, c'est dit. Un dernier conseil.
Non, vous n'êtes pas de bonne humeur ce matin.
Si, non, je suis vif, je suis dynamique et je pense à Katsura. Katsura, c'est le lieu au Japon, vous ne le savez pas, c'est une ville où il paraît que c'est le plus bel emplacement au monde pour apprécier la lune. Et c'est également dans cette ville qu'il y a le plus ancien jardin promenade. Eh bien, il y a un livre, Katsura et ses jardins, de Philippe Bonin. Il est publié chez Arléa, il nous raconte tout ça.
C'était la main verte d'Alain Baraton, jardinier de Versailles. Merci Alain et à samedi prochain.